Bonsoir à vous tous, frères et sœurs, là où vous êtes, Haïti, Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et partout où vous êtes, nous vous souhaitons un agréable sabbat. J'espère que votre semaine a été productive. Ma semaine était vraiment surchargée. Et c'est un grand privilège d'être avec vous ce matin. Et vous savez, chers frères et sœurs, comme nous l'avions vu, comme nous l'avions entendu dans les annonces, le monde bouge. Et vous et moi, nous avons été éclairés par la parole de Dieu. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu, nous sommes guidés par la parole de Dieu, nous savons que les choses vont être empirées. Et même cette semaine, j'ai eu une conversation avec un ami et nous parlions des récents événements, des choses qui se passent autour de nous. C'est vraiment écœurant et parfois on dirait même que. Et les choses qui se passent peuvent nous inquiéter. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons être encouragés, nous devons être et heureux de savoir que Dieu est dans notre camp, Dieu est avec nous et nous n'avons pas besoin d'être effrayés, nous n'avons pas besoin d'être peur. Mais nous avons notre part à faire. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu de notre part, de cette partie-là. Si vous avez besoin d'un titre pour le sermon, c'est Travailler avec prudence et sagesse. Travailler avec prudence et sagesse. Chers frères et sœurs, vous et moi, après avoir été repentis de nos péchés, après avoir accepté de nous faire baptiser par le baptême d'immersion, nous avions eu cette grande opportunité de recevoir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un dépôt de Dieu lui-même en nous. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous aide, comme le Christ avait dit à ses apôtres, que le Consolateur vous enseignera toutes choses de ma part. Le Consolateur vous aidera. Le Consolateur sera avec nous et comme le Christ lui-même a dit que je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous. Mon Père et moi viendrons avoir notre souper chez vous. Ce sont des choses-là, chers frères et sœurs, que nous pouvons vraiment être certains que Dieu est avec nous. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit de Dieu, de par lui-même, ne va pas faire pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, il est là pour nous guider. Dieu est toujours là pour nous guider. Mais chers frères et sœurs, nous devons à coup sûr de pratiquer la prudence, la sagesse dans nos actions, dans nos expressions et surtout dans nos pensées, la façon que nous pensons. Une question que j'ai pour vous, vous laissez-vous influencer par la signification des mots? Vous rendez-vous compte que la plupart du temps, nous faisons du tort car nous ne sommes pas d'accord avec la signification des mots. Par exemple, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'intelligence? Comment décrivez-vous une invention quelconque? La joie pour vous n'a pas nécessairement la même signification que pour un autre. Par exemple, je peux dire que je suis joyeux, je suis joyeux. Parce que quelque chose m'est arrivé, alors que pour quelqu'un d'autre, bon, ça ne veut rien dire. Il y a parmi d'entre nous qui sont plus émotionnels que d'autres. Il y a parmi nous qui réagissent d'une manière différente des autres. Et ça ici, nous devons accepter et la différence chez les autres. Chers frères et sœurs, cela est surtout vrai lorsqu'il s'agit de choses abstraites. Si, par exemple, vous parlez d'une chose concrète, nous savons ce que vous entendez. Par contre, comment définir une tristesse, une déception, un sentiment de reconnaissance et d'admiration, ou que sais-je, que sais-je encore? Ce matin, même pendant toute cette semaine, je réfléchissais pour un sermon. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de trouver un sujet à chaque semaine. Et surtout que dans ma situation, il faut faire des sermons en anglais et pour trois congrégations, parfois quatre congrégations. Et puis, de trouver un sujet approprié pour un sermon en français, et même si c'est une fois par mois, deux fois par mois, mais je dois toujours prier, je dois toujours chercher à savoir comment et nourrir le peuple de Dieu. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme allant de soi, quelque chose que, on se lève et puis on dit, on vient devant la chaîne, devant le pupitre, et puis on dit un sermon. Il faut surtout réfléchir, il faut surtout étudier, et il faut surtout prier. Et parce que nous faisons le travail de Dieu. C'est pas mon travail, c'est pas le travail de l'administration de l'Église. Ce n'est pas le travail de qui que ce soit, mais c'est le travail de Dieu. À chaque fois qu'on a cette opportunité de prêcher, de faire un sermon, une sermonnette, quelles que soient les circonstances, quand on a cette tâche, qui est une tâche lourde, de s'adresser au peuple de Dieu, on fait le travail de Dieu. On doit communiquer. On doit se communiquer avec ce que Dieu a mis à notre disposition. Lorsque je parle de prudence, je sais ce que j'entends. Mais selon toute probabilité, ce n'est pas la même signification que vous le donnez dans votre esprit. Parce que pour moi, il y a certaines choses. J'ai une liste de choses que je dois éviter ou je dois planifier à chaque jour. Je dois planifier, je dois prendre des décisions et j'ai des responsabilités vis-à-vis de ma famille, des responsabilités vis-à-vis des congrégations de mon travail. J'ai des responsabilités vis-à-vis de la société où je vis et j'ai des responsabilités personnelles vis-à-vis de moi. Et maintenant, avec ces responsabilités, je dois planifier, je dois regarder les choses méticuleusement. Et ce qui est peut-être vrai pour moi, ce qui est réel pour moi, peut-être n'est pas réel pour vous, ce n'est pas la même chose. En effet, c'est quoi la prudence? La prudence fait partie de la sagesse, mais ce n'est pas exactement la sagesse. Elle fait partie de prévenance, mais c'est plus que la prévenance. La prudence est une vertu, certes, mais pour être efficace, il faut la mettre à l'épreuve. Si vous avez la prudence, vous pouvez éviter beaucoup de choses mauvaises, désagréables et que sais-je encore. Vous savez, la Bible nous a dit que le simple peut se faire du tort. Et quand on est simple, c'est que on n'a pas assez de connaissances. Par exemple, si vous pouvez être simple, si vous ne faites pas la mécanique, vous ne connaissez pas la mécanique et vous essayez de travailler dans votre voiture, vous pouvez gâter la voiture. Si vous n'avez aucune connaissance de l'électricité et vous essayez de travailler dans votre maison, là il y a de l'électricité, et vous pouvez non seulement vous faire électrocuter, et vous pouvez aussi et commencer un incendie dans la maison, détruire la maison entière, et c'est arrivé. Bon, il me semble que l'une des meilleures façons de définir la prudence, c'est de prévoir et d'éviter les fautes et les dangers. Ça, c'est la bonne définition de la prudence, de prévoir et d'éviter les fautes et les dangers. Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, notre monde est un monde bouleversé. Les choses vont de mal en pire. Et nous devons prendre conscience de ces choses-là, mais nous devons faire de notre mieux afin de ne pas être les victimes de ce qui se passe dans notre société. Comme je vous ai dit, il faut éviter, il faut prévoir et éviter les fautes et les dangers. C'est là une définition assez claire, mais assez difficile pour mettre en exécution. Par exemple, nous autres parents, nous enseignons à nos enfants d'être prudents. Quand ils sont tous jeunes, on le prend par la main pour traverser la rue. On leur explique comment éviter autant que possible un accident. On les met en garde de jouer avec les allumettes. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle faire preuve de prudence. Mais savez-vous que nous, autres adultes, nous avons surtout besoin de prudence lorsqu'il s'agit de converser, d'échanger des idées, de faire savoir à quelqu'un qui nous a offensés sans pour autant créer une discordance ou même des sentiments d'animosité les uns avec les autres. Vous savez, l'apôtre Jacques nous a dit que quelqu'un qui est arrivé à brider sa langue, c'est un homme vraiment accompli. Si on peut maîtriser sa langue. Parce qu'il y a beaucoup de choses parfois. Et comme vous le savez dans notre adage, que la parole est argent, mais le silence est d'or. Parfois, quand c'est mieux de garder le silence, c'est mieux de ne pas répéter certaines choses. Et même quand il s'agit de nous adresser à quelqu'un, nous devons faire de notre mieux pour ne pas blesser cette personne. Et voilà pourquoi on doit pratiquer l'amour. L'amour, c'est quoi? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Si vous ne voulez pas qu'on vous adresse comme un chien, vous n'allez pas adresser aux autres comme un chien. Si vous ne voulez pas qu'on vous adresse avec un sentiment de hautain, vous n'allez pas utiliser un sentiment d'hautain, des yeux hautains pour adresser aux autres. Ça, c'est l'amour. Et voilà pourquoi dans nos conversations, dans nos relations avec les autres, nous devons faire de notre mieux pour utiliser la prudence. Parce que les paroles que nous proférons peuvent avoir des répercussions vraiment négatives. Et ça peut faire du tort aux autres. Et ça peut même détruire nos congrégations. Et nous savons beaucoup de gens qui ont laissé l'Église. Il y a des gens qui ne font plus partie de l'Église. Quand vous demandez à ces gens-là, mais pourquoi, quel était le problème, quel était votre problème? Ce n'est pas une question de peu de gens vous disent que, bon, j'ai laissé parce que j'étais en désaccord avec l'enseignement de l'Église. C'est toujours parce que M. X, Mme Z, oh, c'est toujours les médisances, les calomnies. Il y a toujours ces histoires-là. Et nous devons faire beaucoup d'attention, prêter beaucoup attention à toutes ces choses-là. Et pour ne pas créer des sentiments d'animosité. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'être prudents dans la façon de décrire nos croyances, de défendre notre religion afin de vivre en paix les uns avec les autres. Vous savez, quand nous sommes venus dans l'Église, quand nous apprenons la vérité, nous voulons convertir nos parents, nous voulons convertir nos amis, nous voulons convertir tout le monde. Nous ne pouvons pas savoir, mais comment les choses sont tellement claires devant nous. Le sabbat est le septième jour, mais pourquoi les gens vont-ils encore à l'église le premier jour qui est le dimanche? Et on peut voir, on peut lire dans Lévitique, dans Deutéronome, qu'il ne faut pas manger certains animaux. Mais pourquoi les gens mangent encore des viandes impures? Et on fait de son mieux pour corriger les gens. Et, chers frères et sœurs, nous devons vraiment être prudents. Et la chose que nous devons regarder, nous devons garder en tête, c'est que Dieu n'est pas en train de convertir le monde. Selon Jean 6, verset 44, chapitre 6, verset 44, le Christ a dit, si le Père ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas venir à moi. Dieu est en charge. C'est Dieu qui est le chef de l'univers. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Nous devons laisser cette tâche à Dieu. Nous devons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et il y a beaucoup de gens, même à présent, dans l'Église, il y a des gens qui s'accroche à cette histoire de nouvelles vérités. Parfois, ils vont sur Internet, ou bien ils lisent certains documents, et puis ils vous disent, ah bon, ça, c'est la vérité. Et maintenant, il faut promulguer, il faut promouvoir cette vérité. Chers frères et sœurs, nous devons utiliser beaucoup de prudence dans ce domaine-là. Parce que, ce qui peut pas être vraiment clair pour vous, et cela peut causer des obstacles aux autres. Et si c'est pas quelque chose qui fait partie de la prédication de l'Église. Vous savez, dans l'Église, nous avons toute une collection de brochures. Nous avons notre étude biblique. Et par correspondance, nous avons toutes des choses. Et la Bible vous dit que d'examiner toutes choses. Même quand il faut lire, il faut étudier un livre, il faut prendre son temps pour ouvrir la Bible, essayer d'analyser toutes choses selon la Bible, ce que vous trouvez dans la Bible. Ainsi, vous pouvez être convaincu, ce que vous lisez, ça vient de la Bible. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas le produit des opinions d'un homme. Et maintenant, vous êtes convaincu, et ainsi, ça c'est quelque chose que si les publications de l'Église, c'est bien de partager cela avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous a demandé, vous a posé une question, ou peut-être lors d'une conversation, vous pouvez toujours faire référence à ce livret, à cette brochure, de dire, ah bon, et j'ai appris cela dans telle brochure, ou peut-être un sermon, ou peut-être l'étude biblique par correspondance. Mais nous devons faire de notre mieux, de ne pas promulguer nos propres opinions. Nos opinions sont nos opinions. Chacun de nous a le droit d'avoir ses opinions. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Nous avons une intelligence, nous avons un esprit. Mais par faute de prudence, nous devons garder nos opinions pour nous-mêmes. Et surtout dans l'Église, parce qu'il y a des gens dans l'Église qui sont nouveaux, il y a des gens qui commencent à apprendre. Et quand vous mettez ces choses-là devant eux, ce que vous faites, vous les détournez de la vérité. C'est que ils essaient de se concentrer sur ce qu'ils apprennent. Et maintenant, vous les bombardez des choses que vous pensez qui sont des nouvelles vérités. Alors que, chers frères et sœurs, c'est maintenant de la confusion. Et nous devons faire de notre mieux pour ne pas causer des divisions dans l'Église, de ne pas causer des troubles. Parce que la question que nous devons nous poser, cette chose-là, c'est cette nouvelle vérité. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela est quelque chose dont j'ai besoin pour ma croissance spirituelle, pour mon salut? Le Christ nous a dit dans Matthieu au chapitre 6, au verset 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est que vous et moi, notre travail, c'est de visualiser le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Nous devons travailler acharnement pour le retour du Christ, afin que le Christ revienne, afin que le monde soit changé. Chers frères et sœurs, nous avons du pain sur la planche. Nous avons un travail gigantesque à faire. En tant que chrétiens, chers frères et sœurs, nous devons être prudents, comme je vous ai dit, de décrire nos croyances, de défendre notre religion, parce que nous avons besoin de vivre en paix les uns avec les autres. La Bible, à cet égard, nous est indispensable, car elle contient des exemples très vivides pour nous aider à faire preuve de prudence dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas parler avec un enfant de la même façon quand on parle avec un adulte. On ne peut pas parler d'économie avec quelqu'un qui n'a aucune idée de la valeur de l'argent, ainsi de suite. Imaginez-vous si, parce que j'ai la connaissance de la médecine, et puis mon langage, c'est un langage tout à fait médical. Un langage que je vous parle des choses et que vous n'avez aucune compréhension. Cela ne fait pas de sens, cela n'a aucun sens. De même, frères et sœurs, nous devons, dans nos communications avec les autres, par exemple, quelqu'un qui est nouveau dans l'Église, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. C'est encore un bébé. La Bible appelle les nouveaux convertis des bébés. Ils sont encore au lait. Et nous devons savoir comment les approcher. Parfois, ils ont des questions et il faut les répondre. Mais parfois, si la réponse nous dépasse, il faut avoir le courage, l'humilité de dire, ah bon, ça, je ne peux pas te répondre à cette question. Il faut voir un ministre. Ou peut-être même un pasteur. Ou peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas toute la plénitude la réponse à cette question, mais je peux vous envoyer quelque part. Vous pouvez aller sur le site internet. Il y a toute une série de lettres qui traitent cette question. Et dans ces lettres-là, vous pouvez, et tu peux trouver la réponse à tes questions. Il faut avoir ce courage. Et je dois te dire, parfois, on pense que on doit répondre à toutes les questions. Chers frères et sœurs, ne pensez pas que vous devez répondre à toutes les questions. Et cela ne vous fait pas un idiot si vous ne répondez pas à toutes les questions. Il y a des gens qui pensent que, bon, si on me pose une question et je réponds pas à la question, c'est qu'on va penser que je n'ai pas de connaissances. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons être humbles. Et même si on pense qu'on est un idiot, qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur de sa tâche, tant pis. Si quelqu'un me pose une question médicale, et parfois il y a des gens qui me posent des questions et sur le COVID, sur certaines, et puis je leur dis, ah bon, ce n'est pas mon domaine et je ne sais pas, je ne peux pas répondre, je ne peux pas vous répondre à cette question. Et c'est là que personne pense, ah bon, ok, bon, il n'est pas médecin. Bon, ça c'est tant pis, ça ne va rien, et ça ne va me faire rien, ça ne va pas me faire du tort. Il faut avoir le courage de dire, bon, ok, je ne peux pas répondre à votre question, et de peut-être faire référence à quelqu'un d'autre. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, a agi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, beaucoup de compréhension. Certes, il a été sujet aux attaques de ses adversaires, mais ce n'était pas qu'il causait les disputes. Mais c'est parce que ses adversaires raisonnaient avec un esprit charnel, agissaient de façon égoïste, voulaient rejeter les principes de paix, d'harmonie et d'amour que le Christ proclamait dans tout ce qu'il disait et faisait. Par exemple, il a dit, reportons-nous à Marc au chapitre 5, Marc au chapitre 5, lisons les versets 41, 42 et 43. Marc chapitre 5, verset 41. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Verset 43. Jésus adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Et maintenant, reportons-nous à Marc au chapitre 7, versets 36 et 37. Marc, l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 36 et 37. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Jésus recommandait la prudence parce que ce n'était pas encore le moment pour lui d'être arrêté. Mais ses disciples ne comprenaient pas et pensaient bien agir alors qu'à l'occurrence, la prudence était beaucoup plus importante que vouloir faire connaître les miracles. Vous savez, parfois nous cherchons à démontrer notre connaissance aux autres. On est tellement enflé d'orgueil et on veut démontrer aux autres que nous sommes des intellectuels. Alors que, voyez le Christ, l'exemple du Christ, ce serait bien pour lui que tout le monde, à ce moment-là, sachez que, bon, je suis Je suis le Messie. J'ai accompli un miracle. J'ai fait de grandes choses. Les gens étaient étonnés. Mais lui, il dit non, non. Gardez le silence. Aujourd'hui encore, alors que l'Église de Dieu proclame l'Évangile sur l'Internet et à la télévision, à la radio, ou même par nos ouvrages, nous devons faire preuve de prudence quant à la façon de parler des enseignements du Christ. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont d'autres compréhensions des enseignements bibliques. Parce que notre but, chers frères et sœurs, c'est de ne pas attaquer. Nous ne sommes pas là pour attaquer les gens. Le Christ nous a dit, nous a donné une mission précise, de prêcher l'Évangile, qui est la bonne nouvelle à toute la création pour servir de témoignage. Le Christ ne nous a pas dit d'aller de convertir les gens, le Christ ne nous a pas dit d'insulter les gens, et non. Nous avons pour devoir de révéler la vérité biblique, sans pour autant bouleverser la compréhension des gens dont Dieu n'a pas encore ouvert l'esprit. Il ne s'agit pas de faire un compromis, pas du tout. Il s'agit de faire preuve de prudence afin d'éviter des malentendus qui n'auraient pas besoin d'être causés. Laissez-moi encore vous donner un autre exemple, une parabole que le Christ a donnée, que beaucoup de gens ne comprennent pas comme ils devaient comprendre. Reportons-nous à Luc au chapitre 16, disons les versets 1 à 8. Luc, chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. » Au verset 2, il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Verset 3, l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne puis. Mendier ? J'en ai honte. » Au verset 4, « Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Verset 6, « 100 000. « Sa mesure d'huile, répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« 100 mesures de blé, répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables qu'ils ne le sont les enfants de lumière. Chers frères et sœurs, nous devons être prudents et la question que j'ai pour vous, comprenez-vous cette parabole? Ici, Jésus-Christ n'a pas enseigné à tricher ou à mentir. Il ne cherchait pas de voix malhonnête pour s'occuper d'une dette. Il nous enseigne un exemple de prudence afin d'éviter les malheurs que l'on peut éviter. La façon d'agir n'est pas celle que le Christ recommande. Vous savez, vous, les jeunes de l'Église, vous avez un avenir. Nous savons que le temps est court. Mais qui sait? On ne peut pas dire que, bon, maintenant, puisque nous savons que le Christ va revenir, et maintenant on ne doit pas se soucier de son éducation. On ne peut pas planifier pour son avenir. Jamais dans la Bible, Dieu nous a dit de ne pas planifier pour notre avenir. Vous devez prendre du temps pour acquérir une éducation. Si vous avez des désirs et pensez à ces désirs-là, faites des plans à long terme, comme on dit, et aussi des plans à court terme. Vous devez penser à votre avenir. Et le Christ ici, nous savons que nous sommes dans un monde qui est un monde méchant, un monde vraiment qui ne se soucie pas des autres. Mais nous devons penser à notre famille, nous devons penser à faire des plans pour nous-mêmes. Et parfois il y a tant de choses qui se passent dans le monde, qui se passent autour de nous. Et parfois on a pénurie d'essence, parfois on ne peut pas trouver des aliments. Mais le but de ce parabole, je le répète, c'est d'agir avec prudence et de tâcher de se faire des amis sans pour autant faire de compromis avec les principes d'amour que Dieu nous enseigne dans la Bible. Vous pouvez avoir des amis dans le monde, mais vos amis devraient savoir que vous gardez les commandements de Dieu. Vos amis devraient savoir que vous gardez le sabbat. Le septième jour est un jour que vous ne prenez aucune part à certaines activités. Vos amis devraient savoir que vous ne mentez pas. Et vos amis devraient savoir que vous ne commettez pas d'adultère. Vos amis devraient savoir que vous n'allez pas faire de faux témoignages. Et une fois que vos amis vous acceptent comme vous l'êtes, et chers frères et sœurs, vous n'avez aucun problème avec eux. Mes amis me respectent. J'ai beaucoup d'amis dans le monde. J'ai des amis, des collègues de classe. Et parfois, on a des conversations au téléphone, des conversations téléphoniques. Et parfois, si je vois l'un de mes amis, et puis bon, on peut toujours passer du temps ensemble. Et il n'y a rien de mauvais. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'ai eu une classe réunion à New York et c'est là que j'ai fait rencontre des gens de l'église et qui sont maintenant de bons amis à moi. Et oui, ça, il n'y a rien de mauvais à cela. Mais ce que le Christ veut nous montrer ici, il faut utiliser la prudence. Nous devons avoir de la prudence. Et reportons-nous à Matthieu au chapitre 7, verset 6, avec nos amis dans le monde, nous devons savoir qu'ils ne sont pas encore appelés. Dieu ne les appelle pas encore. Il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas et nous devons respecter ces choses-là. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 6, le Christ qui parle, il dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Quand dans vos relations avec les gens du dehors, vous devez faire attention parce que vous n'allez pas les prêcher. Et là, maintenant, si quelqu'un cherche à vous calomnier, quelqu'un cherche à se moquer de vous parce que vous gardez le sabbat, ou parce que vous gardez les commandements de Dieu, ça, ce n'est pas un ami. Et il faut vous éloigner, il faut vous éloigner de cette personne-là. Parce qu'un vrai ami vous respecte. Votre ami va vous respecter, il va respecter vos croyances, il va respecter votre religion. Mais en même temps, vous aussi, vous n'avez pas, par exemple, quand c'est le moment de... J'ai des amis qui célèbrent Noël, la fête de Noël, qui célèbrent les Pâques. Et bon, si quelqu'un m'aborde, si quelqu'un me pose la question, est-ce que, bon, je peux vous inviter chez moi? Je lui dis, bon, je ne prends pas part à ces genres de choses. Je n'observe pas la fête de Noël. Et puis bon, c'est tout. et ne me force pas, ne cherche pas à me forcer, ne cherche pas à me forcer, ne cherche pas à mettre la dépression sur moi pour que je puisse, parce que je m'appelais à un ami qui m'invitait chez lui, alors que cette année-là avait un plat de Covis, et il m'offrait un plat de Covis, je lui ai dit, ah non, je ne mange pas des Covis. Il m'a demandé, mais pourquoi? Je lui ai dit, ah bon, c'est à cause de ma foi, de ma religion, et je ne mange pas certaines choses, certaines viandes. Et puis, bon, on commençait à se ricaner, là encore, il faut faire beaucoup de prudence et parce que ça, il y a des gens qui sont des moqueurs. Ils font faire de leur mieux pour se moquer de vous. Et le livre des Proverbes, je vous conseillerais, chers frères et sœurs, de lire au moins un livre par jour. Parce que il y a 31 livres et si vous comptez, vous avez 31 jours, il y a 7 mois, et vous pouvez lire un chapitre par jour. Et le livre des Proverbes est plein de sagesse. Il nous montre comment mettre, vivre d'après les enseignements que nous recevons, comment mettre en application ce que Dieu nous recommande. Je connais des gens qui ne croient pas à la Bible, mais qui aiment lire le livre des Proverbes. Je me rappelle un monsieur qui était président à ce moment-là. Et ce moment, ce monsieur-là, à chaque fois qu'il commençait ses discours, il commençait toujours par une partie du livre des Proverbes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent que les conseils dont ils ont besoin pour se diriger vers le succès. Sinon, ça se trouve dans le livre des Proverbes. En effet, chaque fois que vous ouvrez le livre des Proverbes, vous y trouvez des paroles qui vous mènent vers le succès, vers la réussite, vers la façon de vous comporter de façon à ne pas faire du tort à votre prochain. Le livre des Proverbes vous enseigne en même temps comment faire preuve de prudence. Par exemple, lisons Proverbes chapitre 23, les versets 1 et 2. Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Ça, c'est vraiment beaucoup de prudence. Au verset 2. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop à visiter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui. Quand on ne fait pas attention, disons, on est invité à quelqu'un qu'on estime plus grand que soi. Et puis bon, maintenant, on parle, on montre son avidité. Ça, il faut faire attention de ça. Ça, c'est de la prudence. Un conseil extrêmement utile lorsque vous conversez avec quelqu'un d'autorité. Soignez vos mots. Comme j'ai mentionné dans l'un de mes sermons, avant de parler, réfléchissez. Pesez sur vos mots. Réfléchissez sérieusement avant d'ouvrir votre bouche. Et maintenant, regardez ce que Salomon dit dans Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, verset 3. Dans Proverbes chapitre 22, verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Parfois, on peut dire que vous êtes, on peut même vous traiter comme des lâches. Il y a des gens qui pensent que, bon, si vous ne prenez pas certaines décisions, si ne vous faites pas certaines choses, si ne vous dites pas certaines choses, c'est parce que vous avez de la frayeur, vous avez, comme on dit, la puce à l'oreille. Chef positionnant, avec la prudence, on voit le mal et on se cache. Parfois, on pourrait faire beaucoup de bruit On peut s'exalter. On peut vraiment dire, ah bon, afin que les gens sachent qui vous êtes. Mes chers frères et sœurs, le mieux parfois c'est de rester silencieux, de garder son silence. Et puis, parce que on voit l'avenir, on réfléchit à l'avenir, on voit peut-être ce qui va arriver. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'exemples. Mais je ne veux pas prendre le temps pour aller dans ces détails. Mais les simples avancent et sont punis. Parfois, les gens qui parlent trop, la Bible nous dit que les gens qui parlent trop pêchent beaucoup. Et quand on parle, on se vend. Mais quand on écoute, on achète. Voilà pourquoi le silence est d'or. C'est très clair, chers frères et sœurs, n'est-ce pas? Ceci est vrai dans vos paroles et vos actions, dans la façon de vous comporter en toute occasion. Cette définition du mot prudent vous garantit le succès, à condition que vous la mettiez en évidence pour résister à vos sentiments d'orgueil. Une chose est certaine, vous ne vous rendez souvent pas compte, mais l'orgueil est l'une de vos pires ennemis. Il vous empêche d'agir avec prudence, d'être prudent, pour éviter des malentendus. D'une façon générale, nous voulons tous réussir dans ce que nous entreprenons, en quelque sorte, d'être des héros. Savez-vous que le véritable héroïsme, ce n'est pas nécessairement dans la façon dont vous faites quelque chose, mais surtout dans la façon dont vous maîtrisez, la façon de maîtriser votre langue, vos sentiments d'orgueil, de la façon dont vous contrôlez vos sentiments charnels. Vous savez, ça, c'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu, la maîtrise de soi. Je vous dirai quelque chose, mais je ne le dirai pas. J'essaie de garder mon sang-froid. Laissez-moi vous donner un exemple frappant d'héroïsme. Nous trouvons dans la Bible l'exemple de la reine Esther. Lisez ce petit livre. Prenez du temps de lire le livre d'Esther. Il se trouve dans l'Ancien Testament. C'est une histoire magnifique, très touchante. Une histoire où la reine Esther fait preuve de sagesse, de prudence et de courage. C'était une reine non seulement sage et intelligente, mais surtout une reine qui aimait Dieu, qui respectait ses commandements. Et en même temps, qui protégeait son peuple. Elle était de race juive. Les juifs avaient des ennemis qui voulaient leur ruine. Leurs ennemis ont tout fait pour que le roi se débarrasse d'eux. Je répète, lisez cette histoire. Vous y trouverez beaucoup de leçons qui vous permettront de comprendre comment vivre en héroïsme. Les Juifs savaient que ses ennemis voulaient se débarrasser. Notez comment elle s'est comportée avec sagesse et prudence, avec tact et patience, prête à donner sa vie si nécessaire. Et je cite Esther au chapitre 4, verset 4, verset 9 à 11. Esther, chapitre 4, verset 9. Hatak vient rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Verset 10. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Elle avait besoin de courage pour aller à la cour du roi sans être invitée. Elle aurait pu perdre sa tête. Lisez encore dans Esther au chapitre 4, verset 15 et 16. Esther au chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Susie et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Notez son courage à elle. Notez son esprit de sacrifice. Elle était jeune, elle était belle, elle avait tout. Mais elle pouvait perdre tout cela si elle donnait préférence à l'exécution de ses devoirs et non pas à sa priorité. En quelque sorte, elle a négligé la prudence, mais lorsque vous lisez le reste de l'histoire, vous verrez que son amour pour son peuple en tant que reine lui a permis de prendre d'autres mesures qui lui ont servi de prudence par la suite. Et vous pouvez prenez du temps pour lire tout le livre Esther, pour voir la conclusion de cette histoire. Vous savez, le Christ nous a donné beaucoup d'exemples. Et manque du temps, je ne vais pas lire toutes ces histoires-là. Mais le Christ, notre Sauveur, notre frère aîné, a expliqué dans l'une des paraboles les plus frappantes qui se trouvent dans la Bible. Il s'agit là de la parabole des 10 vierges. Laissez-moi vous la citer en l'expliquant brièvement. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lamp, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant le lamp, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec le lamp de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il faut voir cela. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les folles et les sages. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lamp. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles étaient allées en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Au verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Chers frères et sœurs, le retour du Christ est proche. Nous devons nous préparer. Nous avons du travail à faire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons conserver notre énergie dans des choses que Dieu nous a demandé de faire. Nous devons faire notre part. Comme je vous ai dit en plusieurs occasions, notre devoir à nous, nous devons dépenser notre énergie à nous rapprocher de Dieu. Nous ne devons pas chercher à nous exalter. Nous ne devons pas chercher à être comme le monde, à laisser notre vanité, notre orgueil nous dérobe de notre couronne. Nous ne devons pas nous laisser séduire par Satan le diable, qui veut nous chasser de l'Église, parce que Satan, lui, son but à lui, c'est de nous détourner de Dieu, de nous détourner de l'Église. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. Sans quoi, chers frères et sœurs, nous nous trouvons dans la même situation que les vierges folles. Nous frappons à la porte. Nous demandons au secours, mais il se peut qu'il soit trop tard. Chers frères et sœurs, agissez Alors qu'il est encore temps, veillez et priez comme le Christ l'a dit, afin que nous puissions entrer dans son royaume. Dieu nous a fait des promesses et Dieu, c'est lui qui a commencé son travail, il finira son travail. Mais nous devons faire notre part en utilisant la sagesse, la prudence et l'intelligence que Dieu nous a donnée par le biais de son esprit.